Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Il n'est pas facile de vivre avec une personne qui a la folie des grandeurs. Elle surestime ses capacités, elle a un désir immodéré de puissance et un amour exclusif de soi. Elle se croit plus beau, plus intelligent, plus important, plus fort, plus friqué que les autres, alors que la réalité est tout autre. C'est la mégalomanie. Alors on en parle aujourd'hui avec notre invité Paul Moula. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, la folie des grandeurs, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à se comporter ainsi?
Bon, la folie des grandeurs peut être classée parmi les différentes psychoses que l'on connaît. En fait, plusieurs troubles de personnalité que l'on connaît. Et c'est dans cette étude, différents troubles de personnalité, on distingue plusieurs genres, de sorte que en une émission, il est impossible de vider tous les sujets.
Voilà.
Mais comme nous avons choisi de focaliser notre attention sur la mégalomanie, nous devons dire que, comme pour tous les troubles psycho-affectifs, on doit regarder dans la nature de la personne et aussi dans son histoire. Parce qu'un choc survenu pendant l'évolution, un choc venant de l'environnement ou de l'individu lui-même peut entraîner un trouble de personnalité. Ça, c'est général. Un enfant, un bébé qui est dans le sein maternel, si on n'en prend pas soin, évidemment, il naîtra avec certaines insuffisances ou certains troubles de personnalité. Malheureusement, il arrive que l'on grandisse avec ce complexe de supériorité, de superpuissance. Ça peut venir simplement d'un manque d'affection.
Il semble que certaines personnes qui ont souffert dans leur qui étaient rejetées dans leur jeune âge développent ces genres de comportements. Certains ont cité même Hitler qui voulait conquérir le monde entier.
Oui, son cas. Et comme j'ai toujours dit avec toi qu'ici, en tant que psychologue, nous ne faisons pas de jugement moral, mais nous éclairons l'opinion pour montrer que ce que les éducateurs, ce que les parents font vis-à-vis de leurs enfants peut favoriser tôt ou tard l'enfant ou le défavoriser dans son comportement et dans son caractère. C'est comme ça que l'on peut voir quelqu'un qui a manqué d'affection dans ce sens d'Hitler, réagir, développer ce complexe, mais d'autres encore ont été déjà de les bas âges élevés dans ce complexe. C'est l'environnement qui dit celui-là est fort, il est super puissant, et quand il est avec les frères, on dit c'est le plus intelligent, et on lui attribue toutes les qualités, et on le prédestine déjà à toujours plus grand.
Alors vous dites parmi les causes, il y a d'abord le manque d'affection,
le manque d'affection, parents, mais aussi certains complexes qui viennent de l'éducation. Hein, mais on peut regarder également, trouver dans la mégalomanie une recherche personnelle d'un surmoi, ce qui peut faire qu'à un moment donné, on se convainc et on ne veut pas diminuer. Et on se croit super puissant.
Comment vous avez appelé ça? Un complexe le surmoi.
Le surmoi. Donc, on se croit que en moi, là, je déborde, je dépasse de grandeur, je dépasse en force.
Donc, il n'y a que moi, tous les autres là, tout autour là.
Non.
Donc, il n'existe pas, il n'y a que moi.
Les réussites dans le sport, les réussites scolaires peuvent aussi entraîner une certaine
mégalomanie.
Mégalomanie, parce qu'on se dit, je suis imbattable. Vous voyez un enfant qui a toujours été premier de la classe depuis la maternelle, et puis à un moment donné, il atteint la quatrième, la troisième, la cinquième des humanités sans être battu. Il dit, dans cette école, il n'y a que moi. Et tous les profs ne vantent que celui-là. Vous voyez.
Et c'est quoi, t'es le meilleur?
Lui peut ne pas se croire, mais du moment où il estime que Il a dépassé, il a convaincu son univers. C'est fini.
Il est intronisé le meilleur.
Il est intronisé le meilleur de l'école et il se croit imbattable. De sorte que le jour où il va échouer, vous le verrez pleurnicher. Ou être second de la classe, troisième de la classe, il va pleurnicher. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, je suis déjà intronisé. Comment se fait-il que je puisse être détourné aujourd'hui? Donc, voilà. Comprenez que tout part de la conviction personnelle, non pas de l'extérieur. L'extérieur peut influencer, mais la cause est dans le manque qui est en moi ou dans l'excès de confiance qui est en moi.
Alors, si on revient par exemple au manque d'affection, un enfant qui n'a pas eu l'affection, est-ce que c'est pour lui une façon de compenser ce que les parents ne lui ont pas donné en famille?
Une façon de compenser, mais c'est une façon de se venger.
De se venger.
C'est de se venger, pourquoi ? Parce que je n'en ai pas eu. De mes efforts, je me suis élevé jusqu'à ce rang où je me trouve aujourd'hui. Donc, je me dis, j'ai la capacité de faire plus et d'être toujours plus. Ce qui fait que je voudrais démontrer aux gens, au monde entier, que je suis fort, de nature forte.
Alors, une personne mégalomane qui se comporte ainsi, quelles sont les conséquences que cela peut avoir dans son entourage?
Comprenez d'abord qu'il n'est pas très supporté, ok? Parce qu'il veut écraser tout le monde. Et ceux qui se rendent compte, ceux qui ne sont pas prêts à se plier, vont simplement
s'éloigner.
Par contre, il va écraser de plus en plus ceux qui sont moyens ou ceux qui sont faibles. Et ce qui fera que un type comme ça, comme il voudra extérioriser, imposer sa puissance, il voudra amener les gens à l'acclamer, à le vanter,
à le louer, à l'encenser.
Donc tous les attributs qu'on peut donner à tous ces grands qui se disent super puissants.
Oui. Voilà. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Jonas Ndongala nous appelle de Guémena, dans la province de l'Équateur. Kassamba est à Bounia. On commence avec Jonas. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre question, Jonas?
Oui, ma question est celle-ci. J'ai au moins trois préoccupations. Quelles sont les causes de la folie de grandeur qu'on peut rencontrer dans les milieux des jeunes?
Oui, c'est la seule question?
Ah oui, la deuxième, comment traiter une jeune fille atteinte de la folie de grandeur? Est-ce que c'est par hypnose ou comment, que l'invité puisse nous démontrer?
Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, là-bas à Guémena, des jeunes filles qui ont la folie de grandeur?
Oui, j'ai des exemples. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment de jeunes filles. Il y a même des belles filles qui marchent nues, qui marchent vraiment en parlant. Il y a aussi des jeunes garçons qui prennent des tramoles et ça a l'air cause de l'épilepsie. Donc il y a beaucoup, beaucoup de... Mais je ne sais pas si l'épilepsie aussi fait part de la folie de grandeur. À l'invité de nous démontrer.
Alors, je pense qu'il y a peut-être une confusion là. L'invité va répondre tout à l'heure. Merci. Kassamba, vous êtes à Bounia, bonjour.
Oui, je voudrais seulement poser la question à ce qui concerne la folie de la grandeur.
Oui.
Est-ce qu'une société ne peut pas elle-même provoquer cette folie-là de la grandeur? Actuellement, vous voyez, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on les appelle des grands prêtres, des grands maîtres. Tout ça, c'est la folie de la grandeur que la société est en train de créer elle-même. Avec la situation sociale actuelle, on risque d'avoir beaucoup de mégalomanes dans les jours à venir.
Merci Kassamba. D'accord. César, vous êtes à Isiro, bonjour.
Oui, bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, question de mégalomanes là, ici à Isiro, nous avons vraiment beaucoup de ces gens-là. Ils se veulent, se vantent, ils se voient, ils embrient même les gens. Donc vous êtes à la maison comme ça, ils viennent, ils commencent à parler, ils vous narrent des histoires, ils commencent peut-être, ils commencent à vous narrer l'histoire de football, ils laissent, ils commencent la musique, ils laissent, ils commencent tout ça. Alors des gens comme ça, on ne peut pas, comment on peut les classer? Lui aussi, on peut dire qu'il est mégalomane, il est quoi, il souffre de quoi? qui prend les autres là, les jeunes se permettent de prendre vraiment du chanvre là, quantité, et ça lui permet de parler de n'importe quoi. Donc les gens sont vraiment embriédés. Alors déjà comme ça, on peut les classer dans quel niveau. Lui aussi, on peut lui dire qu'il aime également.
D'accord, merci Symphorien. Vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Je voulais demander, est-ce que les gens qui... Vous avez dit, les gens qui n'ont pas d'intelligence ou les fous, est-ce qu'ils peuvent vivre dans le même milieu que tous les autres? Parce que normalement, ils doivent avoir leur place réservée.
Voilà, vous parlez des fous. En fait, ceux qui ont la folie des grandeurs, ce sont pas des fous comme on les voit dans la rue, mais c'est des personnes qui se surestiment, qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres, qui ont un désir immodéré de puissance. Ils sont super puissants en plus. C'est un complexe de supériorité. En quelque sorte, tel que l'invité l'a dit tout à l'heure. Alors, votre question, qu'est-ce que vous voulez savoir, Symphorien?
Je voulais savoir. Cette mentalité atteint les jeunes comment?
D'accord. Alors, Paul Moula, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Merci beaucoup. Tout le monde tourne autour des causes de la mégalomanie,
bien sûr.
Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Mégalomanie. J'ai bien dit que la plupart du temps, la mégalomanie s'explique par un manque d'affection qu'on a subi quelque part. Ça peut être dans le sein maternel. Ça peut commencer là, selon que la maman a accepté ou non la grossesse. Parce que si la femme n'a pas accepté la grossesse, elle peut faire des pratiques qui peuvent informer l'enfant qu'il n'est pas attendu, qu'il n'est pas le bienvenu.
Des tentatives d'avortement, par exemple.
Par exemple, mais aussi parfois de coups donnés au ventre. La femme peut arriver à se donner de coups
pour tuer l'enfant.
Pour tuer l'enfant, pour dire si je suis malheureuse aujourd'hui, c'est à cause de toi si j'ai
interrompu. Je ne veux pas de cette grossesse.
Je ne veux pas de toi. Et on va ainsi vouloir rejeter l'enfant. Lui aussi, quand il se sentira menacé, particulièrement pendant le premier trimestre, quand il se sentira menacé, il va essayer de développer un mécanisme d'autodéfense. Ce qui fait que déjà un choc comme celui-là peut faire que l'enfant qui se débrouille, qui survit au-delà de toutes les pressions qu'il a subies, peut à un moment donné souffrir de troubles. Et
un enfant blessé déjà dès le ventre maternel.
Oui. Et un enfant comme ça né, non seulement qu'il peut souffrir de certains chocs au niveau du cerveau qui pourront justifier une cécité, qui peut justifier une surdité, qui peut justifier différentes maladies que l'on observe chez l'enfant, comme aussi un enfant qui, venu au monde, naît sous le choc. Parce que la naissance, c'est aussi un moment très important de la vie de la personne. Alors, si la maternité, l'accouchement se fait avec plus ou moins de difficultés, ce choc-là peut aussi justifier plus tard le comportement de l'enfant. Là, je prends les troubles psycho-affectifs généraux. Et il peut arriver aussi que pendant le jeune âge, pendant qu'on élève l'enfant, 2 et 6 ans, normalement, c'est l'âge où on apprend le langage, l'âge où on entre dans l'univers où on copie les parents. Mais si on a eu un père trop imposant ou une mère trop imposante et qui vous a inspiré un modèle masculin de puissance, vous dites, je suis un homme, je ressemble à mon père, donc je dois être comme mon père. Et parfois, et ainsi dans la société, on voudra s'imposer et démontrer que moi, je suis né d'un père qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de puissance, qui a beaucoup d'énergie et qui sait s'imposer, et on essaiera de s'imposer de cette manière-là. Progressivement, après 6 ans, on peut également subir de chocs parce que à partir de 6 ans, on affronte l'école Et si on a été dans une école où on a été très brillant, comme je viens de le dire, dans les sports,
très intelligent,
dans les différentes branches de l'enseignement, ou encore si dans l'ensemble on a un peu excellé par rapport aux autres et que l'on n'a pas aidé à équilibrer sa personnalité, cela aura des répercussions plus tard lorsque on sera dans la vie adulte. Parce que la vie adulte, comme je disais à l'entrée de l'émission, c'est une sommation de tout ce que nous avons subi comme influence de la conception jusqu'à l'adolescence. Mmh. Et l'adolescent, on en a parlé plusieurs fois ici, c'est un homme, c'est une femme qui veut, ce jeune garçon, cette jeune fille, qui veut aujourd'hui s'affirmer et en se faisant un monde à lui. Et alors, autour de lui, il copie également les modèles. Et comme notre ami Kassamba disait tout à l'heure, si on l'avait déjà attribué un nom de soleil, un nom de grand prêtre, de grand maître...
Mais c'est ce qu'on voit par exemple ici au Congo. Il a dit, est-ce que c'est pas la société elle-même qui fabrique des mégalomanes? Regardez par exemple dans la musique congolaise aujourd'hui, ou dans la société en général, on a des grands prêtres, on a des grands prêtres-mères, on a, je sais pas moi, des noms excellences, oh, tout ça, Mopao, toujours, lui il est toujours au-dessus de tout le monde. Alors quand on encense une personne comme ça, on fabrique des mégalomanes.
Si celui-ci est déséquilibré, si celui-ci ne comprend pas que derrière le mot prêtre, derrière le mot, comme à l'époque, guide, éclairé, ainsi de suite, il ne se cache pas
une flatterie. Leader des leaders.
Il ne se cache pas une flatterie. Il faut faire attention. Donc, la mégalomanie consiste en une surestimation de soi-même par soi-même. Mais quand on m'appelle grand prêtre, pour le peu d'argent que j'ai, quand on m'appelle grand maître, pour les petites prouesses que je peux réaliser dans la musique, dans les sports, dans l'art, dans la culture, est-ce que c'est pour cela que je dois gonfler? Est-ce que c'est pour cela que je dois exceller par rapport aux autres? Si je suis équilibré, je me dis merci pour le compliment, mais je ne suis pas ce que vous voulez faire de moi. À ce moment-là, je suis équilibré, je ne suis pas malade et je n'ai pas une personnalité troublée. Par contre, si la société, en m'attribuant des qualités, des titres pour lesquels
Même en politique, on dirait que dans ces pays, les Congolais ont l'habitude de fabriquer des mégalomanes d'accentuer.
Je pense que un homme politique doit être un homme équilibré. Le Congolais ou le citoyen peut utiliser tel ou tel terme pour vous encenser, pour
les
vous
grands, élever. Les timoniers, l'aigle des carreaux, le grand, il est au-dessus de tout.
C'est très beau comme élément de propagande et d'élévation de la personnalité,
oui, oui.
Mais c'est extérieur à moi. Malgré que l'on me vante grand maître, timonier, mais moi
au-dessus de tout le monde.
Moi en moi-même, je me dis, si je peux me dire que seul, comme le disait lui-même le maréchal à un moment donné, parce que vous me poussez à les citer, il disait, seul je ne peux rien, c'est avec l'appui de tout le monde que je réalise ce que vous vantez aujourd'hui, c'est pourquoi vous m'attribuez des titres. Ce qui veut dire que lui-même était équilibré. Il comprenait que derrière tous ces mots-là, il y a
la flatterie.
Il y a un peu de flatterie, mais il y a aussi une intention de propagande. Mais quand il est en réunion, quand il veut, il fait des consultations, quand il veut réaliser quoi que ce soit, je pense que dans son homme d'État, il prenait du recul par rapport à ces titres qu'on attribue.
Alors, on va y revenir. Il est temps d'accueillir les deux auditeurs. Didlin Manenge nous appelle de Brazzaville et Jado de Bukavu. Didlin, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit.
Voilà, vous êtes à Brazzaville. On vous écoute.
Ah, vraiment, je voulais juste savoir sur les mégalomanes. Ce sont des personnes qui ont cet caractère du surmoi et ils ont toujours l'esprit d'humilier les gens ou être un peu impoli sur le quartier ou sur le quoi que ce soit. Ça, c'est ma première préoccupation. Et ma deuxième, je voulais juste savoir, quelles sont des mesures préventives pour lutter sur des aires des personnes à des fois qui ont l'habitude de développer cette tendance ou qui n'ont pas encore développé, mais ils ont déjà développé, il y a d'autres gens qui n'ont pas encore développé. C'est par là que vraiment je me suis limité, je dis bonjour à tout le monde.
D'accord, merci Didelin de Brazzaville. Jadot, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Je dis bonjour à l'invité, également à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Nous vous écoutons.
Ok, j'ai une seule préoccupation. J'aimerais savoir quelle attitude que nous devons prendre vis-à-vis de ces gens, des mégalomanes qui vivent partout dans la société. Est-ce que faut-il les encourager à les rentrer ou bien il faut les décourager à chercher un peu à les mettre à leur place? C'est un peu ça.
D'accord, merci Jadot. Alors Paul Mboula, Didelin de Brazzaville dit, il a l'impression que les mégalomanes, ils ont l'habitude d'humilier les autres, ils sont impolis. Vous avez dit d'ailleurs qu'ils cherchent à écraser. Lorsqu'ils trouvent que vous n'êtes pas avec lui, ils cherchent à vous écraser. Alors quelle attitude adopter face à de telles personnes?
Merci beaucoup. Comme pour tout malade, hein, parce qu'au fond la mégalomanie frôle également un état de santé perturbé. Comme pour tout malade, nous devons d'abord avoir un peu de compassion et finalement travailler, si pas individuellement, de façon collective, à amener la personne à rééquilibrer sa personnalité. Voilà le grand travail que fait les psychanalystes quand il va non seulement chercher la cause de cet état trouble de la personnalité, mais il va également mener des démarches avec la personne, c'est le travail du psychiatre, à finalement développer une personnalité qui est équilibrée. Lorsque nous réfléchissons avec des jeunes et en termes beaucoup plus simples, nous leur disons que dans la communauté, nous rencontrons des gens qui ont une personnalité forte, il y en a qui ont une personnalité faible, il y en a qui ont une personnalité équilibrée, il y en a qui sont déséquilibrés et il y en a qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs. Et dans l'éducation, comme demande notre ami Jadot et Dublin, il faudra que nous puissions aider nos enfants à soigner chacun des éléments constitutifs de leur personnalité. N'enfermez pas trop vos enfants dans la parcelle parce qu'ils ne seront pas sociables. Et quand quelqu'un n'est pas sociable, vous voyez, il est difficilement accepté par les autres et il est difficilement compris par les autres. Et lui-même peut se demander pourquoi est-ce que les autres le rejettent, le repignent. Et même dans la grande famille, on va trouver des gens comme ça qui ont été malheureusement mal encadrés. Les meilleurs de la famille, toujours intelligents, toujours premiers, toujours bon enfant, on le vante comme ça, mais on ne l'aide pas. Parce que aider un enfant, c'est le persuader qu'il a des forces et qu'il a des faiblesses. Et il doit transformer ses faiblesses en forces. Il doit profiter de ce qu'il y a comme opportunité autour de lui pour qu'il puisse également rejoindre les autres et travailler avec les autres.
D'accord, on va accueillir Laetitia Bira de Kindou. Laetitia, bonjour.
Bonjour Radio Cartier, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai juste une petite question à poser à l'invité.
Oui.
J'aimerais savoir, 99% des Kassaïens sont des pantards. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont aussi une folie de grandeur?
Vous avez dit 99% des Kassaïens sont des vantards.
Oui, même si c'est un pasteur, ils sont toujours des vantards. On peut les qualifier aussi qu'ils ont une folie de grandeur.
D'accord, Paul Mboula. C'est une question intéressante, hein.
Ben, madame, je n'ai pas confiance à vos statistiques parce que je n'ai pas encore réalisé que
99%
des Kassaïens sont comme ça. Peut-être que vous avez eu la chance de rencontrer un grand nombre qui sont
des vantards.
Qui sont vantards. Oh, je ne sais pas, vantard, le mot là, il est trop plein. Mais qui s'élève un peu trop, qui se croit peut-être puissant par rapport aux autres. Je voudrais dire que mégalomane, c'est un malade. C'est un malade
qui s'ignore.
Qui s'ignore. Et à tout point, vous le trouvez s'élever par rapport aux autres, cherchant à écraser les autres. Et c'est à ce moment-là que l'on dit, vous n'allez pas dire que tous les Kassaïens ne sont pas sociables. Parce que au fond, les mégalomanes sont souvent rejetés parce qu'ils ne sont pas supportés. Partout ils passent, ils veulent passer pour les meilleurs. Pour
écraser
les autres. Et qui voudra vivre avec quelqu'un qui n'a aucune considération pour lui.
C'est comme et il peut même humilier les autres en public.
S'il humilie, c'est déjà un signe qu'il utilise sa puissance pour écraser, et ce qui fera qu'à un moment donné, hein, la personne risque de se retrouver tout seul et alors développer de nouveaux sentiments qui sont liés à l'isolement. Ce qui fait que, comme vous dites là, ce ne sont pas tous de malades. Il y a parmi les Kassaïens, d'ailleurs 99%, moi je pense, sont équilibrés. Et si on peut trouver quelques malades, c'est dans le 1% qui reste. Mais le travail que nous avons tous à faire en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que psychologues ou journalistes, c'est de réaliser des personnes dont la société a besoin. La société a besoin de personnes qui ont une personnalité forte. C'est-à-dire qui, quand ils ont un point de vue, quand ils font des analyses, ils peuvent soutenir ce qu'ils pensent être constructif et aller jusqu'au bout. Des gens comme ça, Kassaïens ou pas Kassaïens, moi je pense que ce sont des gens dont la société a besoin. On a besoin de gens qui sont équilibrés, qui sont vivables.
Est-ce qu'on peut dire que certains mégalomanes n'acceptent pas les points de vue des autres? Donc, quand il donne son point de vue sur une affaire, il pense que c'est ça, et donc il n'y a plus rien d'autre.
C'est lui qui incarne la puissance, l'intelligence. Donc, il se dit, ou c'est moi, ou c'est tout ce que j'ai dit,
ou c'est rien.
Alors, on s'est dit, mais quel genre de type? Parce que c'est un déséquilibre mental. Et même, on s'est dit, écoutons-le. Des gens équilibrés vont le laisser parler. Puis après, ils diront, il a raconté des bêtises. Pourtant, et à ce moment-là, le travail de l'éducateur, le travail de parents, comme on nous a demandé des mesures préventives, c'est d'accueillir d'abord les enfants tels qu'ils viennent au monde, puis de chercher à les connaître, à les comprendre, en veillant au déroulement successif des différentes phases psycho-historiques de l'évolution de leur personnalité. Je voudrais dire quoi? Je vais parler en termes simples. J'ai un bébé. Je vois mon bébé. Comme tous les enfants n'ont pas, comme tous les bébés ne sont pas encore conscients de leur moi, ils vivent du plaisir et du déplaisir. Mais au fur et à mesure que le non entre le sort de la bouche des bébés, commence à faire partie de sa personnalité, de l'affirmation de sa personnalité, alors le travail, notre travail s'intensifie déjà, l'éducateur s'intensifie, pour amener progressivement l'enfant à s'affirmer, mais en même temps à s'équilibrer, à se rendre, à s'intégrer dans la société. Et comment cela peut arriver? Ça peut arriver qu'un enfant qui découvre que maman, dès qu'elle n'était pas contente quand j'ai demandé la tétée, elle hochait la tête et disait non. Donc moi aussi, je dois être capable de dire non pour certaines choses. Mais si on le réprime trop, cet enfant devient soit timide, soit affable, incapable de dire non ou de dire oui. Ou de distinguer le oui et le non. C'est comme ça qu'on devient parfois versatile.
Et une personnalité faible.
Faible. Et cela va dans tous les âges. On aura le temps d'en parler à d'autres occasions. Mais ici, il faudra savoir quel est le besoin de l'enfant, comment je peux l'aider à grandir comme il se doit et à quel stade se trouve-t-il par rapport à la société, par rapport à l'environnement. C'est à ce moment-là que je réussirai à ressortir ce qui est fort, à cultiver ce qui est fort, mais en même temps à persuader l'enfant que dans sa faiblesse, il peut davantage mieux faire.
Comment bien vivre avec un mégalomane, une personne qui a la folie des grandeurs? On en parle aujourd'hui avec Paul Mboula, psychologue.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment bien vivre avec un mégalomane, quelqu'un qui a la folie des grandeurs? Paul Mboula, prenons l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui va louer une belle voiture qui ne lui appartient pas et qui dit au chauffeur, dépose-moi là où il y a beaucoup de gens. Hein, et puis, comme ça, tout le monde saura que c'est ma voiture. Ou qui amène les gens pour leur montrer une parcelle pour dire, voilà, c'est ma parcelle, alors c'est pas sa parcelle. Ou il dit à la sentinelle, quand tu me verras venir avec les gens, mets-toi debout tout en me saluant respectueusement. Tu dis, bonjour patron. Et comme ça, les gens sauront que c'est ma parcelle. Pourtant, c'est pas à sa maison ou c'est pas son chantier. Est-ce qu'on peut qualifier une telle personne de mégalomane aussi?
Est-ce que c'est par habitude ou bien c'est occasionnellement?
C'est par habitude.
Si c'est par habitude, oui, on peut le traiter de mégalomane. Mais si c'est occasionnellement, bon, comme on dit, la raison a ses raisons que l'on ne sait pas toujours justifier. Ce qui fait qu'un jeune homme, généralement, les adolescents ou ceux qui prolongent leur adolescence sont capables de tels actes. Ce sont des actes
ponctuels. Vous pouvez impressionner un peu la galerie.
La galerie. Amuser un peu la galerie parce que, on s'est dit, je veux paraître, par rapport au paraître. Mais si ça devient habituel et un peu insubconscient, on s'est dit, quelqu'un qui a une certaine gabegie financière, qui dépense à tout bout de champ. Alors, on s'est dit, parfois qui fait des emprunts, qui ne s'est pas remboursé, simplement pour paraître, à ce moment-là, et on s'est dit, est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il mesure les dangers qu'il court? Est-ce qu'il sait qu'il est devenu insupportable dans la société à cause de ce comportement? C'est à ce moment-là que l'on parle de mégalomanie.
Alors, vous avez dit pour bien vivre avec une telle personne, d'abord, et vous dites qu'il faut aller voir un psychiatre, cette personne doit avoir un psychiatre, mais comment est-ce qu'elle va prendre conscience qu'elle est mégalomane et qu'il y a un problème dans sa vie?
Oui, mais généralement, quand on n'est pas supporté, et qu'on prend conscience qu'on n'est pas supporté par les autres, on se pose la question, pourquoi les autres ne m'aiment pas? Pourquoi les autres ne me supportent pas? Est-ce que je suis normal? À travers une émission comme celle-ci, l'on peut se dire, est-ce que moi, je suis mégalomane? Est-ce que je ne m'élève pas trop par rapport à ce que je suis réellement? En politique, comme dans la vie
dans
de
la
tous
musique,
les jours.
Dans
la musique ou même dans le journalisme. Pourquoi
sûr,
pas?
Bien sûr, hein? Dans est-ce, tous les domaines.
Dans
disons.
Tous les domaines. Est-ce que je ne me crois pas super puissant? C'est à partir de cette réflexion que je peux arriver à un moment donné à essayer de répondre. Est-ce que ce que je fais, ce que je dis, ce que je présente au monde, mon image à moi, est-elle une image correcte de moi-même? Est-ce que ce n'est pas tronqué? Est-ce que ce n'est pas une image fausse? Et quand cette image est fausse, est-ce qu'elle ne va pas dans le sens d'une surestimation de moi-même?
Alors que comment l'environnement peut aider une telle personne, ceux qui sont tout autour de lui? Est-ce qu'on peut lui dire la vérité? Non, toi, tu es trop prétentieux, tu en fais un peu trop, regarde. Et au Congo, par exemple, certaines personnes n'aiment pas dire la vérité, on va continuer à l'encenser, à lui dire, c'est toi le grand prêtre, et il va continuer ainsi.
Oui, mais regarde, déjà, ton approche posera problème. Pourquoi? Parce que la personne est persuadée qu'il est super puissant, qu'il se conduit bien, qu'il est bien. C'est sa nature, C'est souvent comme ça qu'ils disent, c'est ma nature.
C'est ma nature.
Mais il faut une certaine approche, un certain tact pour ramener l'autre à réfléchir.
On va revenir. C'est le temps d'accueillir Patricia de Bounia. Bonjour.
Oui, allô, bonjour, Dani.
On vous écoute.
Voilà, je préfère d'abord faire une petite rectification. Je suis Patricia Bounia Lombé, Akalemi plutôt, c'est pas Bounia.
Vous êtes plutôt Akalemi, Tati. Il est Akalemi et non Bounia.
Salut, Akalemi.
Ok, j'allais poser une question. Donc, au fait, nous savons, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de beaucoup de villes du pays, telles que Lubumbashi, Kinshasa, d'autres qui nous parlent de Goma. Et si on essaie de voir après des jours, on se rend bien compte que ces personnes ne connaissent ni Kinshasa, ni Goma, ni ces villes dont ils parlent. Ils nous parlent de la politique, ils nous parlent de l'histoire du pays, mais on se rend bien compte que tout cela n'est que mensonge. Alors, je peux savoir, et la question est celle-ci, que ça peut être la source ou la cause, quel genre de cause liée à cette sorte de mégalomanie.
Bien, Paul Moulin.
Oui, le mensonge doit être distinct de la mégalomanie parce que c'est vrai que la personne peut se croire super puissante parce qu'il connaît trop de l'histoire du pays ou il connaît plusieurs villes du pays ou il connaît la géographie du monde ou finalement il est fort dans tel ou tel domaine. Mais pourquoi ment-il? Est-ce qu'il ment par habitude? Est-ce qu'il ment pour valoir? Mais le paraître peut amener la personne à devenir finalement malade. Si la personne ne prend pas garde, ne prend pas du recul pour se poser la question de savoir si l'image qu'il vend aux autres n'est pas une image négative, une image des personnes déséquilibrées, on arrive à la conclusion qu'effectivement la personne vire déjà vers la mégalomanie.
On va terminer avec Victor Moufoya qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Merci le journaliste, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Victor.
Oui, j'ai une petite question à poser à l'invité. Il s'agit de deux personnes. L'une parmi les deux se croit intelligent et devant tout le monde, il se vante et puis il impose ses pensées, mais il ne convainc pas le public. Et l'autre, il se croit intelligent et il convainc le public et le public est convaincu que la personne est intelligente. Alors, entre les deux personnes, on peut tous dire qu'il souffre de la folie de grandeur ou c'est comment?
Paul Moulin.
Merci beaucoup pour les deux questions. Les deux personnes sont-elles intelligentes, oui ou non? Au fond, ils doivent s'assurer qu'ils sont tous les deux intelligents. Mais si il y a l'un qui est moins intelligent et l'autre qui est très intelligent, il faudra avoir l'honnêteté de reconnaître les capacités de l'un ou de l'autre. Mais chacun en soi doit se dire qu'il est limité, même si on est intelligent, même les grands savants du monde, d'ailleurs ils sont très peu connus de leur vivant. C'est plus tard ou après certaines inventions ou productions scientifiques qu'on arrive à les reconnaître. Mais ils ne passent pas des heures à se vanter, à prouver qu'ils sont supérieurs aux autres. De la même manière, si nous nous trouvons devant une personne qui est capable d'argumenter et de faire valoir son jugement, cela ne veut pas dire qu'il est malade. Mais si la personne n'arrive pas à convaincre, c'est peut-être parce que il n'a pas beaucoup de force de personnalité. On connaît des gens comme ça, même dans nos familles. Il arrive parfois qu'on dise nous attendons tel pour résoudre ce problème. Même si autour de nous ou parmi nous il y a quelqu'un qui a un argument de poids ou qui a une position qui peut faire avancer les choses, mais comme il y a une personne qui est considérée comme une personne clé de la famille on l'attendra venir jusqu'à ce que pour que l'on puisse trancher la chose. D'accord. À ce moment-là, le choix est à faire.
Mm-hmm.
Entre attendre celui-là et travailler avec celui qui est faible, mais qui a de bons arguments. Tous les deux vont manifester un certain comportement. Ils vont nous vendre leur image,
mm-hmm.
mais c'est à nous d'apprécier
bien sûr,
qui, est, qui est vrai, parce qu'il y a trois mots clés,
mm-hmm.
le beau, le vrai et le bon, hein, qui nous aident à
juger. On ne pourra pas épuiser la matière aujourd'hui, hein. on n'a pas assez de temps.
Alors donc, le oui. vrai, celui qui est vrai, oui. Par rapport à sa puissance, par rapport à ses connaissances, par rapport à ses capacités,
mm-hmm.
s'il est vrai, bon, sans... se vanter sans être complexé, celui-là n'est pas malade. C'est celui qui peut être fort ou faible,
mmh.
Être puissant ou non, mais
qui, se vante,
qui hein. commence à se vanter, à s'imposer, à, oui. à se surestimer. Alors celui-là,
c'est
un malade.
Qui doit aller voir le psychiatre. Hein. Il faut aller. Paul Moula, psychologue, merci.
Merci.